Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 149. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Et là, petite actualité, parce que ça s'en vient, c'est même en cours en ce moment, on parle de Longue vue sur le cours, du 19 au 27 novembre, c'est la troisième édition cette année. Sinon, du 23 au 27 novembre à la Cinémathèque québécoise, on rappelle bien sûr que c'est les sommets d'animation. On a bien hâte de voir tout ça, et le film d'ouverture Window Horses au sommet d'animation. Donc, à mettre à vos agendas. Et on rappelle évidemment que du 1er au 8 décembre, c'est la première édition de plein écran. Ce merveilleux festival dont je suis le directeur de la programmation, dont on travaille depuis le début de l'été. Très content, c'est sur Facebook, c'est gratuit, pas besoin de réserver des billets, juste à liker la page de plein écran. Et comme la programmation va sortir quelques heures après qu'on enregistre, je me suis dit que j'allais peut-être dévoiler quelques surprises. Quelques scoops, mais de toute façon, ce ne sera plus des scoops le temps que les gens écoutent l'épisode. Notamment, il y a le très beau film sensible que je suis très fier de présenter qui s'appelle Blonde aux yeux bleus de Pascal Plante.
Merci. Non, mais
j'ai tant promo.
Tant que tu le penses, en fait. Puis je sais que tu. Non, mais je sais que c'est pas parce qu'on est des amis dans la vie que tu ne penses pas ce que tu dis en général. Et ça, c'était une de tes plus belles qualités, Paul. Donc, merci, je te lance les fleurs. Merci. Si tu le dis, c'est que je le prends. Puis, j'ai bien hâte de le montrer à la communauté facebookienne, facebookoise, là. Facebook, là.
D'ailleurs, c'est un film qui fait vraiment l'unanimité au sein de l'équipe, là. Parce que, tu sais, bon, j'étais en charge de la programmation, mais ça veut pas dire que les autres n'ont pas nécessairement vu les films. Puis il n'y a pas des fois des commentaires ou des questions. Comme ça. Puis Blonde aux yeux bleus, c'est un titre qui revenait souvent dans les choix. Donc, on pourra voir ça le 1er décembre.
Ah oui, la première journée.
Oh my god!
Ouais, première journée. J'ai pas toutes les dates par cœur, là, mais je sais que celui-là, il joue la première journée. Autre film que je suis très content, une espèce de film étrange, un film vraiment intriguant aussi qui change des habitudes de ce cinéaste-là, en fait. C'est comme une nouvelle facette de son cinéma, je suis content de voir ça. Ça s'appelle « Elle avait l'air de sourire » de Rémi Fréchette.
Je m'en attendais pas.
Mais t'as peu. Je l'ai-tu vu celui-là? C'est lequel?
Tu l'as peut-être pas vu. C'est un film que j'ai fait à Trouville il y a un an et demi, en fait, avec ma copine. On était dans le mode cabaret 48 heures. On a quand même bien passé à notre idée avant. Puis c'est ça, mais c'est elle qui a écrit. Fait que ça ressemble pas à une de mes histoires, mais en même temps... C'est ma réalisation, fait que c'est assez intéressant, là. Ça change, comme Paul dit, ça change vraiment de l'habitude, là. Mais je suis bien content de celui-là, puis il a passé de nulle part. Il a passé une fois à Kino, Montréal, puis c'est pas mal ça. Fait que c'est une belle occasion, en fait, avec plein écran, de le partager, là.
Crème, on va le découvrir. Moi, je l'ai jamais vu, si, ouais. On va découvrir ça.
Sinon, on rappelle les films d'ouverture Star d'Emily Mannering, un super beau film sur la jeunesse d'aujourd'hui. Vraiment un coup de cœur. Le film de clôture, c'est Ravage. Ça aussi, je pense, ça va faire parler beaucoup. C'est un film de danse, un film expérimental de Alan Lake, chorégraphe de Québec. Et puis vraiment, ce film-là, il n'a pas circulé beaucoup, mais ça vaut vraiment le détour. Ça joue le 8 décembre. Film sans dialogue, mais comme d'une beauté à couper le souffle. Moi, évidemment, j'aime les 24 films, là, on va se le dire. Mais parmi d'autres que je voudrais souligner, Elle puis son char, c'est un documentaire super bon. Là. Un peu expérimental aussi, mais en gros, c'est l'histoire d'une femme qui va affronter l'homme qui l'a abusé plus jeune. Donc, c'est tristement aussi un film un peu qui vient répondre à certaines... faire écho à certaines actualités.
Puis, tu sais, c'est un film un peu vraiment familial parce qu'en fait, Loïc Darce, le réalisateur, c'est sa mère. Ouais. Et donc, il reprend aussi, tu sais, veux pas du home vidéo. On n'en parlera pas trop parce que les gens vont le découvrir. Ouais. Mais juste une anecdote sur ce film. Moi, je l'avais vu, j'ai vu... il était à Sundance là, quand on y était, mais je l'avais vu, moi, avant ça. Il jouait au FICFA l'année dernière. Okay. Et parlant du FICFA, je pourrais vous parler un peu de mon expérience du FICFA, d'ailleurs, là, plus tard dans l'épisode. Bref, tu me tendrais la perche, Paul, mais très fait trivia, assez drôle, c'est que à la fin du film, disons, sans rien dévoiler, mais il y a comme des glitches. Puis le projectionniste pensait que la copie était défectueuse, donc là, ils ont arrêté le film. Ils jouaient avoir un long métrage, là,
Oh
après ça, le
my
long métrage est
God.
diffusé, puis là, ils se sont excusés, puis ils ont refait jouer le film. Donc à la fin de la projection. Donc comme
Wow.
quoi, la facette expérimentale, à tout le moins, elle est réussie, parce
Ouais.
qu'elle a confondu le projectionniste à Moncton.
T'imagines le cauchemar pour les réalisateurs qui ont travaillé tellement longtemps là-dessus, mais bon.
Il était pas présent physiquement, non, je sais, c'est ça, mais il trouvait ça très drôle parce que je lui ai relaté l'anecdote, puis il prenait avec un grain de sel, là, il trouvait ça très drôle.
Ben, quand c'est un public de non-initiés, c'est toujours étrange. Mes parents me parlent encore de la projection de fin d'année à Concordia où il y avait, tu sais, fiction, documentaire et expérimental de mêlée, puis ils me parlent encore des films expérimentaux qu'ils ont vus, puis ils sont pas du tout connexes à ce genre de cinéma-là, puis pour eux, c'était comme pas un sacrilège, mais comme tu fais des études pour faire un truc weird de même, c'est
Ouais,
étrange, là,
ça
tu sais.
brasse un peu, mais ça sert à ça. Mais elle puis son char, c'est au-delà de la composante expérimentale est quand même très mineure, là, je pense, en proportion dans le film. Mais c'est vraiment un film à voir, là. C'est un film qui, tu sais, combien de courts-métrages on peut leur mettre l'étiquette importante, dans un sens? Je pense qu'il y a quand même une. C'est probablement un des courts-métrages les plus importants, entre guillemets, que j'ai vu, tu sais, au Québec, en tout cas, dans les dernières années. Fait que, non, c'est une grosse pièce, là, ça, c'est sûr.
Ben, parlant d'expérimentation, moi, je suis quand même très fan d'expérimentation en général, quand celle-ci est réussie. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans la programmation. Un de mes films préférés de l'année, je suis vraiment content de l'avoir dans la programmation, c'est Sparkle d'Alexander DiGiacomo. Premier film de photographe, le film que joue à Fantasia, chez Crémy, tu l'as vu. C'est le point de vue d'un chien qui tombe sur les champignons magiques de son maître.
Ouais, c'est vraiment bon ça.
Plein de plaisir en perspective. Olika aussi de Kavin Abassian. Un petit travelogue en Inde en 16 mm retouché, c'est de toute beauté. Que nous nous assoupissions de Denis Côté. Une espèce de film très malaisant. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars.
Non, ça j'ai pas vu.
Non, j'ai pas vu ça.
Je veux juste dire gros malaise, puis dans la neige, donc c'est parfait pour le mois de décembre.
Gros malaise de Nicoté, ça va bien dans la même phrase.
Ouais, ben c'est souvent là-dessus qu'il travaille d'ailleurs. Donc, tu sais, puis je pense que c'est un de ses réussis également. Un autre de mes gros coups de cœur de Fantasia, que lorsque j'étais jury, le danseur de Gabriel Villandré.
Ah ouais, c'est vrai, c'est sympathique ça.
Ouais, vraiment un super film très surprenant. J'ai hâte que les gens le découvrent. Puis il y en a d'autres, mais on va vous laisser découvrir tout ça du 1er au 8 décembre. Et n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos commentaires, vos coups de cœur ou vos questions, des trucs comme ça. J'ai vraiment hâte de vivre ça comme un peu de l'autre côté des coulisses, là, comme d'être sur le stage puis au lieu d'être le simple spectateur. Donc, ça va être toute une expérience. Sinon, notre prochain épisode, ça sera, on le rappelle, le 150e. Ça va être notre dernier épisode de l'année. On va faire donc le bilan de l'année. On va essayer de trouver une petite formule. On le fait live à Sherbrooke, à la capsule. Il faudra confirmer les dates, mais ça va être quelque part en décembre. Les dates, c'est comme notre World Tour à Sherbrooke. Non, mais notre date. Donc, ça sera comme ça, une date en décembre. On va vous confirmer ça probablement un samedi. Et sinon, ben évidemment, c'est la fin de l'année. On a peut-être le temps d'écouter plus de films. Ça commence première grosse bordée de neige aujourd'hui à Montréal. Donc, on a peut-être plus le temps de s'enfermer puis d'écouter des films. Et vous m'avez fourni une bonne liste, les amis. On n'aura pas le temps peut-être de toutes les passer en revue. Mais quand même, j'aimerais vous
Les
entendre
reviews
sur.
éclairs, on se fait un
J'aimerais.
party
Ouais,
mix.
on peut faire des reviews éclairs parce qu'en plus, j'ai comme oublié que je voulais parler d'un film précis que j'ai vu au FICFA. Donc, comme je t'ai dit, tu me tendras la perche pour ça parce
Ok.
que j'ai quelque chose de bien intéressant
Ben,
à vous parler.
on va voir comment l'épisode
Ouais.
va se construire. Premièrement, Rémi, j'aimerais ça t'entendre sur un film que j'ai vraiment hâte de voir, qu'on dit visuellement impressionnant, innovateur. C'est le Doctor Strange de Scott Derrickson, le 14e film du Marvel Cinematic Universe, ou 15e si on inclut Hulk ou pas, là. Il y a comme des débats là-dessus. Qu'est-ce que ça vaut, Rémi?
Hulk est inclus.
Ouais,
Hulk est
dans le
inclus, je
14,
pense.
parce que je pense qu'il y en a qui disent que le MCU, ça commence vraiment au premier Iron Man, puis qu'avant ça,
Mais
ça se porte
c'est le
pas.
deuxième Hulk qui est inclus, pas le premier.
Non, c'est
C'est
ça,
celui
mais.
avec Fight Club Guy, là. C'est quoi dans son nom?
Edward
Je vais
Norton.
l'appeler Fight
Ouais.
Club Guy. Ouais, c'est ça,
Edward
lui.
Norton.
Ouais, c'est ça, Edward Norton.
Quand même.
Ouais, puis Scott Derrickson, qui a pas une filmographie un peu bizarre, puis pas des bons films, en fait, là. sais, il a fait The Day the Earth Stood Still, le remake avec Keanu Reeves. Puis il a fait, ben, celui-là, je l'ai vu, mais Sinister avec Ethan Hawke, c'est un espèce de film d'horreur où il trouve des tapes, mais c'est comme super
low
classique,
budget,
générique, puis... Hollywood horror, là. Fait que, tu sais,
genre, l'exorcisme d'Emily Rose. Là,
ouais, c'est ça, c'est ça.
Je l'avais vu, là, à sa sortie en salle, là, pis je me rappelle de que dalle, là. Ouais.
Mais tu sais, c'est comme une drôle de filmographie pour se rendre à un Marvel, là, tu sais, c'est comme... juste avant, il a fait un film à petit budget, puis ouais, ben, il tombe sur Doctor Strange, puis guys, c'est fucking awesome, Doctor Strange. C'est...
Ah, ouais.
J'ai toujours mon petit... un petit recul là, sur les Marvel, j'ai toujours peur que ça soit de la merde parce que à un moment donné, c'est qu'il y en a trop. Pis,
disons-le ben, comme ça.
Je pense qu'on en parle genre 4 fois par année des Marvel. Là, à un moment donné, on s'étouffe dans les films de super-héros. Puis il y en a trop. Moi, il y a les DC Universe que j'ai pas suivi. Là, j'ai vu. Je dis que j'ai pas suivi. J'ai vu Suicide Squad quand même qui était épouvantable. Puis là, ben, écoute, Marvel, ils ont scoré fort avec Doctor Strange. Puis je pense qu'une des plus grosses forces du film, qui est une des grosses forces d'un Guardian Galaxy ou même d'un Ant-Man, c'est que le film, il vit comme un film en soi. Il est pas rattaché à au gros univers. C'est pas le chapitre 12 d'une saga sans fin, là. Il y a comme la scène post-générique qui lie ça à l'univers. Puis il y a comme à un moment donné une shot de la ville où on voit le building des Avengers. Mais c'est pas mal ça, parce que le reste, c'est un film complet, là. C'est un film qu'on peut regarder du début à la fin, puis on n'est pas perdu dans la tonne de références aux comic books qu'on comprend pas comme cinéphile et non comme geek de comic book, là.
En même temps, c'est un peu, vu que c'est comme le premier film le mettant en vedette, c'est un peu comme le premier Ant-Man, mais là, maintenant, tu sais, Ant-Man va être dans le Civil War, puis dans d'autres films éventuellement, donc...
Ouais, c'est ça, mais même, tu sais, les gros super-héros, ils essaient quand même de les linker, tu sais, un Thor, le premier, il y avait quand même beaucoup de liens avec les autres, puis on voyait trop que c'était, ça s'en allait vers ça. Mais là, vraiment, ça tient en soi. Puis en gros, le pitch, c'est que il y a Dr. Stephen Strange, oui, son nom de famille, c'est vraiment Strange. C'est le meilleur chirurgien. Il est top, top, mais il est un peu... il est très borné, là. Il est très imbu de lui-même dans sa pratique. Puis un soir, il est sur la route, puis il y a un accident monstrueux de voiture, et il se brise les mains, là, mais comme il peut plus faire de chirurgie. Ça brise sa vie, ça brise sa personne complètement. Puis il entend parler d'une façon, une espèce de méthode bouddhiste pour aller se remettre en forme, se remettre sur pied. Puis il décide d'aller voir, puis finalement, c'est des enseignements de magie. Là, on va se le dire, là, c'est vraiment de la magie, celle-là. Parce que, tu sais, tout dans le Marvel Universe, il essaie quand même de le grounder dans la réalité. Tu sais, Iron Man, il essaie de faire un suit, mais qui... Ben, je dis pas que ça se peut, là, mais tu sais, vous savez ce que je veux dire, là, on est vraiment comme dans la magie. Il y a peut-être juste Thor là, qui est un peu plus dans le gros fantastique, mais et moins dans ce qui est science-fiction. Là, on est dans les pouvoirs, mais ils réussissent quand même à rendre ça plausible dans son histoire, dans le New York moderne. Puis en gros, tu sais, ce qui marche fort dans le film, c'est ben, le casting. Benedict Cumberbatch, c'est comme. C'est sûr que c'est. Je sais pas si vous avez suivi là, la série Sherlock, là. Je sais pas si vous êtes pas des gars de TV, là. Mais avez-vous déjà regardé ça, Sherlock?
Ben vite fait, ma copine l'écoutait beaucoup, donc j'ai vu des bouts, là.
C'est comme vraiment comme un... Je pense que c'est vraiment un must-see, pis une série, mais c'est des épisodes d'une heure et demie, fait que c'est plus comme 3 films dans une saison, tu sais. C'est vraiment bon, mais c'est tout sur les épaules de Bénédicte, que cette espèce de charisme-là, mais en même temps... Une étrange folie, puis il est capable de doser l'humour dans ses personnages, puis c'est ce personnage-là aussi qui ressort dans Doctor Strange, justement. Ce qui est cool, c'est que ça se prend pas trop au sérieux, mais ça se prend juste assez au sérieux pour qu'on embarque dans l'histoire. Il y a beaucoup de clins d'œil au spectateur, mais de clins d'œil aussi à cette espèce d'univers-là qui essaie de construire autour des pouvoirs magiques là, de Doctor Strange. Puis c'est ça, puis autrement dans le casting, il y a Mads Mikkelsen qui fait le méchant, bon, qui a la gueule de l'emploi. Malheureusement, je trouve qu'il est un petit peu sous-exploité dans son rôle, parce que c'est quand même un vraiment bon acteur, puis s'est fait donner un rôle de méchant un peu générique pour ce genre d'histoire-là.
Tu sais qu'est-ce que j'écoutais un podcast, puis il disait justement que la grande force des films de DC, souvent, c'est leur vilain, leur méchant, et la grande force des films de Marvel, souvent, c'est leur héros. Puis tu sais, ça fait tellement de sens parce que
ouais.
y a quand même très peu de vilains mémorables dans l'univers de Marvel, à part Loki, moi je trouve. Là.
Ouais.
Et vice-versa dans le DC Universe. Je veux dire, Batman il est cool, mais tu te rappelles beaucoup plus du Joker, puis de ses
personnages. Ben, c'est ça. Tous les vieux films de Batman, tu sais, les Tim Burton, ils avaient été timés, puis c'est, tu sais, il y a plus de temps d'écran aux méchants qu'aux héros, puis ça, c'est avant le DC Universe, là, disons, là.
Mais même maintenant, c'est qui qu'on se rappelle, c'est Harley Quinn, là, tu sais, c'est pas nécessairement Will Smith, là.
Puis c'est ça qui est décevant un peu, parce que Mads Mikkelsen, c'est tellement un bon acteur, puis il a vraiment la gueule de l'emploi, mais c'est vraiment le méchant, là, il est méchant parce qu'il est méchant, puis je veux dire, il y a d'autres petites raisons autour, là, mais on s'entend que c'est comme il est vraiment dessiné rapidement, là. Mm-hmm. Puis sinon, ben, il y a Tilda Swinton qui est un super bon casting, là, qui est toujours excellente. C'est un peu weird, là, parce qu'elle joue une espèce de
asiatique,
pas une druide, là, mais une magicienne. Ouais, ben c'est ça, ben, elle est pas asiatique dans le film, mais le personnage, of course, il aurait dû être asiatique. Ça aurait dû être un genre de moine, ou je sais pas, là, je connais pas vraiment les BD, mais c'est un drôle de casting, mais en même temps, Tilda Swinton est tellement bonne, puis elle fait tellement bien le rôle que c'est ça. Là, ça fait le mentor, dans le fond, qui apprend tout à Doctor Strange. Puis visuellement aussi, c'est comme du... je pense que vous avez dû le voir dans la bande-annonce, mais c'est comme Inception, mais x10. Là. C'est comme... Les scènes d'Inception se build doucement, mais là, c'est vraiment dans ta face du gros, de la grosse transformation de décor. Puis c'est super impressionnant. Là. C'est un film à attraper au cinéma. Là.
Est-ce que tu l'as vu en 2D, 3D, image?
En 2D. 3D, j'ai comme perdu un peu intérêt. Là. C'est comme. Je gâche, ça vaut la peine, là, un film de ce genre-là, à le voir en 3D si vous tripez 3D, mais. C'est ouais, je l'ai vu en 2D. Ça m'a suffi, là. Puis c'est ça, puis il y a un bon climax aussi, là. J'irai pas dans les détails pour rien spoiler, mais tu sais, contrairement au gros pow-pow, il y a quand même une bonne idée en arrière de la finale, puis c'est ça, là. Je trouve que ça fait vraiment un des meilleurs films de l'univers Marvel. Ça se met au top, là, avec Guardians of the Galaxy, puis c'est un peu moins drôle que Guardians of the Galaxy, mais peut-être que l'histoire est un petit peu plus originale que Guardians of the Galaxy. Fait que pour moi, il est un peu au même niveau, là. Voilà, c'est pas mal ce que j'ai à dire, mais ouais, c'est un bon à rattraper, là. Si vous tripez pas super-héros, c'est comme... Mais vous aimez les gros blockbusters, je pense que c'est un bon compromis, celui-là.
Super, merci Rémi. Sinon, Pascal, avant qu'on enregistre, en prélude, je demandais un peu quel film vous avez vu ce temps-ci, puis tu m'as donné le pire double feature de l'histoire de l'humanité. J'espère que t'as honte juste après l'avoir écrit, puis que genre, tu te sentais mal, là.
C'est vrai, hein?
Comment peux-tu mettre dans la même phrase Shoah, comme cette espèce de chef-d'œuvre comme monstrueux, et cette brique du cinéma, et Sausage Party, ce film d'animation salace sorti en début d'été, dans la même phrase? Comment commences-tu?
Juste ça de même, j'en ai vu un des deux, je vous laisse deviner lequel.
Bon. Non, mais on parlons pas nécessairement de Sausage Party, là, mais c'est parce que c'est ça l'affaire. J'ai recommencé. Hey les gars, faut que je compte quelque chose. Je suis retombé sur mon agenda de quand j'étais à Concordia, puis que je notais tous les films que je voyais. Puis là, je voyais ça, puis là, je suis comme en 2008, 2009, 2010, puis là, je les avais toutes notées assidûment. Puis là, maintenant, j'ai arrêté, puis là, j'ai retrouvé, puis là, j'ai continué à lire, tu sais, j'ai recommencé, bref, fait que c'est un acte de communion avec ma cinéphilie complètement. J'ai repris le flambeau, c'est merveilleux.
T'avais arrêté de les noter?
Ouais, j'avais arrêté de les noter, j'avais comme, je sais pas, là, après Concordia, mon agenda, je lis. C'est quelque part, puis bon, bref.
Je peux te dire ça, moi, ça fait 11 ans que je note tout ce que je vois. Genre, je tiens une liste, genre, très, très précise avec si c'est la première fois que je le vois dans ma vie, puis si je l'ai vu sur grand écran. Fait que, tu sais, il n'y a pas de notes, puis rien, c'est juste une liste, mais c'est la 11e année, là, cette année que je fais ça, là.
OK, ben, t'es vraiment plus assidu que moi. Moi, j'ai fait, vois-tu, 3 ans de temps, j'ai arrêté, et là, je reprends. Donc, là, ben, peut-être pour longtemps.
Tu fais des statistiques en fin d'année, là.
Mais tout ça pour dire que, là, maintenant, c'est facile, parce que, tu sais, avant, comme quand Paul demandait au podcast, ah, tu sais, quel film vous avez vu, tu sais, des fois, t'en oublies un peu, tu passes un peu, bon. Puis là, ben, là, j'ai support visuel à l'appui, puis là, tu regardes ça. Puis les deux derniers films, c'est Sausage Party Broly et Showa back à back dans une liste écrite. Donc il y a un document physique de ça. Ouais. Ben c'est ça, Sausage Party, c'est un peu décevant, mais tu sais, ça remplit son. Comment dire, ça remplit son mandat, comme tu dis, un peu d'humour salace et tout ça. Je pense que tu sais, le voice acting est bien. C'est comme attachant. L'univers est.
Le concept est quand même vraiment le fun.
Ben, le concept est le fun, puis en fait, c'est ça qui marche dans le film, je t'avoue, tu sais. Donc, c'est tous des aliments d'une épicerie qui sont dans la
quatrième dimension. Là, on parle de Showa, juste à être sûr, là.
Ouais, on parle de Showa, là.
OK, c'est bon. C'est vraiment le fun, ouais, Showa.
Ils sont dans une épicerie pendant 9h30 de temps. Non, c'est dans une épicerie, puis là, justement, c'est un paquet de saucisses, nos protagonistes, puis là... Oh, mon Dieu, est-ce que j'embarque vraiment dans le synopsis de Sausage Party? Mais disons, juste pour vous dire l'univers, là, c'est ça, c'est comme, ils se parlent entre eux, puis ils imaginent que les humains viennent, puis que c'est des dieux, puis qu'ils les amènent dans un monde magique et merveilleux. Et puis là, ils découvrent le secret que non, les humains les amènent dans un monde de terreur, car ils vont les dévorer et tout ça. Puis là, notre protagoniste Saucisse est au courant de ce secret-là et essaie d'alarmer toute l'épicerie. En gros, là, disons que
c'est... Ben, en gros, le synopsis, c'est « Saucisse veut fourrer pain ». C'est pas mal ça.
Ouais, il y a un peu ça aussi. Disons que ce qui fonctionne dans le film, c'est l'univers. Tu sais, c'est drôle de... Parce que c'est un film qui joue sur les stéréotypes. Puis tu sais, des bons stéréotypes, là. Tu sais, Borat nous a appris, et Team America nous a appris que bien jouer sur l'humour raciste, stéréotypique, là, je sais pas comment le dire mieux, quand c'est bien fait, avec un fond, puis avec un commentaire, Chris, c'est drôle, tu sais. Puis ce film-là, ben, là-dessus, tu sais, comme je veux dire, Selma Hayek qui fait un taco, c'est merveilleux, tu sais, je veux dire, c'est vraiment drôle. Bon. Mais c'est à peu près tout. Pour vrai, c'est la critique la plus imbécile que je vais dire, il faut que je me mette au niveau du film, parce qu'après ça, j'embarque dans le show, fait que tu sais. Non, mais... disons, c'est juste ça pour moi qui est intéressant, c'était de voir un peu, tu sais, comme c'est ça, ces espèces d'humour-là, d'utiliser les aliments pour faire des métaphores de culture et tout et tout. Bon, le vilain, c'est le vilain le moins drôle que j'ai vu dans un film depuis vraiment longtemps, là. Genre, c'est lourd, là, comment c'est vraiment pas drôle. Puis, ben, finalement, le film finit, puis t'en as pas tiré grand-chose. Donc ça, c'est pas mal, Sausage Party. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, mon Rémi.
Hey my god, moi ça fait comme un mois, tu sais, je l'ai vu au cinéma, là, genre no shit, là, puis je vais t'avouer que c'est déjà loin dans ma tête, bon. Là, mais moi par exemple, j'avais une crainte, puis je sais pas si t'as déjà entendu parler du film Food Fight, mais je vais vous faire un petit, genre, film history, c'est quand même de quoi, genre, à connaître dans sa vie, dans la lignée des So Bad That It's Good, là, genre vraiment dans la lignée de The Room et compagnie. Il y a un film qui s'est fait, c'est sorti en 2012, mais le projet a commencé début 2000. Ça a pris une dizaine d'années à sortir. C'est un film qui s'appelle Food Fight et c'est les aliments dans une épicerie qui prennent vie. Et il y a une histoire de détective, qui histoire de le love story à travers ça puis tout. Puis le film a coûté 45 millions et il a rapporté 73 000 $. C'est un film mettant en vedette Charlie Sheen, Hilary Duff, Eva Longoria, Christopher Lloyd et compagnie.
C'est un film d'animation
en CGI. Ça a l'air d'être genre... Ils ont l'air d'avoir pris le moteur d'animation des Sims 1, là. C'est comme... C'est tellement dégueulasse et ça a coûté 45 millions. Mais ça a pris 10 ans le sortir parce que personne voulait sortir ça. Puis parce que les producteurs, pour avoir 45 millions, ils ont fait plein de crosses. Fait que finalement, ben, il y a ce film-là qui est sorti. C'est vraiment une espèce de cult dans le monde des mauvais films, là. Genre, Food Fight, c'est super connu comme le pire film d'animation ever. Fait qu'en tout cas, ceux qui sont curieux, il y a plein d'extraits sur YouTube. C'est probablement aussi drôle que Sausage Party, mais dans un autre registre complètement. Voilà, je te laisse parler de Showa maintenant.
Mais le pire film d'animation, ça serait ça?
Mais attends, non, mais genre...
Puis ils ont vu The Good Dinosaur, là.
Oh shit, j'ai pas vu ça.
Ah ouais, c'est ok, point de suspension, on va en rester là. Non, mais sur une note un peu plus intellectuelle, non, mais oui, effectivement, moi, la pièce maîtresse de ma vie de cinéphile cette semaine, ça a vraiment été le Showa de Claude Lanzmann, ce fameux film. Et anecdote, moi, et Paul le sait, ben Rémi aussi, vous le savez tout en fait, que je suis un gros fan de Liszt et... sur deschoupepictures.com, c'est comme un peu la liste des listes, là. C'est leur mandat, c'est de faire, ils compilent toutes les listes qu'ils peuvent trouver pour faire une genre de liste absolue des absolus, là. Puis dans le top 100, il me manquait un film à voir et c'était Shoah de Claude Lanzmann. Et j'ai profité du fait, oui, merci, et j'ai profité du fait que qu'il est sur Mubi, je suis abonné à Mubi. Et pour se le taper, je ne l'ai pas regardé d'une traite. Je l'ai regardé en peut-être quatre shots. Mais quand même.
Chuchote.
Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'à Mané, c'est.
Même l'étudiant de première année de Concordia, qui s'appelle Pascal Splante, en genre 2010, et comme tu regardes avec dédain.
Ouais, peut-être. Peut-être. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, il y a une limite à ce que tu es capable d'encaisser. Parce que Shoah, c'est probablement c'est le film ultime sur l'Holocauste, là. Et Claude Lanzmann était très, très conscient qu'il faisait de l'histoire avec ce film-là. Et il le témoignait visiblement à ses sujets, aux gens qui l'interviewent, parce que le film, en gros, c'est il n'y a aucun archive. C'est juste des images filmées, des entrevues. En tout cas, je vais y venir un peu là, de la structure du film et de comment c'est fait et qu'est-ce que c'est. Mais juste pour dire, tu sais, vraiment, t'as des fois des gens qui se rompent devant la caméra, qui partent en pleurs ou qui sont incapables de se remémorer tout ça ou qui relatent des événements traumatiques, de trauma, là, carrément. Et des fois, la caméra continue à rouler et pendant qu'ils se ressaisissent, puis vraiment, on dirait qu'ils respirent, puis ils font comme « bon, on le fait pour l'histoire, on le fait ». C'est un peu ça le sous-texte. T'as l'impression que tout le monde se lance dans cette aventure-là avec Claude Lanzmann, vraiment pour la mémoire, tu sais. Et ça en fait, tout dans ce film-là en fait un film important, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu le vois, le film est sorti en 85, il a été tourné vers la fin des années 70. Et c'est assez intéressant comment ça a été fait aussi. Ça a été tourné, donc il y avait à peu près 225 heures, j'ai lu, de rush. Et Claude Lanzmann, d'ailleurs, a donné toutes les rushes qui sont pas dans le film fini. C'est dans le domaine public, en fait. Donc n'importe qui peut l'utiliser.
Oui, puis non seulement ça, mais il continue à faire des films à l'aide de tout ce matériau-là qui a accumulé lors du tournage originel. Donc, il y a comme plusieurs films qui sont sortis aussi par la suite.
Non, exactement, parce que le film devait quand même prendre un certain angle. L'angle est somme toute assez chronologique et on saute un peu d'un camp de concentration à l'autre. Et les camps de concentration, évidemment, à travers les années, à travers les époques, évoluaient. Et puis là, justement, les témoignages en rendent... relate de tout ça. Tu sais, comme par exemple, moi, un fait qui est quand même assez important à savoir, I guess, et que je ne savais en fait aucunement, parce qu'on parle ben gros des chambres à gaz, right? Mais en fait, toute la première période, dans les années 41-42, les premiers camps, en fait, ils gazaient les Juifs. C'était c'est un peu drôle de parler de ça au podcast. Mais bon, ils gazaient les Juifs dans des vannes, en fait. Et c'était juste avec du monoxyde de carbone, tu sais, puis ils se rendaient de la gare à l'endroit où il y avait les fosses communes. Il les gazait pendant le voyage dans des camions, puis après ça, ça commençait comme ça, puis après ça, genre, c'est devenu une science, tu sais, puis le film montre vraiment comme tout le... comment dire, le génie machiavélique, mais quand même une certaine forme de génie mise en œuvre, tu sais, par l'Allemagne nazie pour produire des usines... de meurtre carrément et des innovations et tout ça, mais je veux dire complètement dans le mauvais sens. C'est un film bouleversant évidemment, mais au-delà de ça, c'est vraiment film important s'il en est un. Je veux dire, je pourrais pas nommer beaucoup plus d'autres films que Shoah, j'ai l'impression.
Puis on en discutait l'autre jour, Pascal, puis tu disais aussi qu'il y avait comme un certain comme Claude Lanzmann, une manière vraiment particulière aussi d'interviewer les gens, c'est qu'il va jamais, un peu retomber sur l'émotion ou, tu sais, comme indiquer les gens. Il va toujours aller sur le fait, sur le chiffre, sur la date, afin de comme garder une certaine neutralité.
Non, exactement. Même que ça le rend assez froid, au final. On a comme l'impression qu'il est très, très froid de la façon qu'il conduit ses entrevues, mais effectivement, on se rend compte que c'est complètement une rigueur, que jamais, tu sais, finalement, c'est un peu de l'anti-Herzog ou, tu sais, de l'anti... ou évidemment de l'anti-Michael Moore, mais là, ça vaut même pas la peine de les comparer, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est ça. Pouvez-vous me décrire en détail? C'est extrêmement factuel. Il y a quand même quelques moments dans Shoah où il va affronter un petit peu plus, il va confronter plutôt quelques sujets, et évidemment c'est souvent les sujets parce qu'il fait des entrevues sur des survivants, il fait des entrevues sur des témoins, mais aussi il entrevue parfois des Allemands, des hauts gradés, des SS ou des colonels ou des lieutenants, ou je ne sais pas trop c'était quoi leur grade ou peu importe, mais dont un qui est complètement en déni. Je veux dire, l'entrevue commence, puis il dit ah, je me rappelle pas vraiment de mes années quand j'étais à la tête, tu sais, du maintien du ghetto de Varsovie. Puis là, t'es comme, oh, tu sais, give me a break, là. Puis tu sais, Claude Lanzmann, je pense qu'il était comme, non, 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 là. Fait que là, il sort plein de faits sur le nez pour genre, bon, est-ce que là, tu te rappelles un peu mieux, tu sais, on peut-tu arrêter de se prendre pour des valises, puis on peut-tu se parler, tu sais. Fait qu'il y a quand même quelques moments où, et ça fait quasiment du bien parce que ça le rend un peu humain. Puis c'est de l'affront de bon goût. C'est pas de l'affront comme, tu sais, genre Charles Ferguson dans Inside Job, moi, ça m'avait vraiment agacé. Ou, tu sais, il y a des cinéastes, des fois, documentaires, que tu peux un peu critiquer leur éthique. Parce que t'as l'impression que ça devient quasiment une guerre de couilles, là, tu sais. Genre, tu sais, que, je sais pas, de piéger des gens ou tout ça. Claude Lanzmann, clairement, c'est pas ça son but, là.
En même temps, c'est un film qui a soulevé tellement de questions éthiques, puis de, non seulement, tu sais, de son sujet, son traitement, mais également, c'est ça, à cause de ces fameuses entretiens qui ont été un peu comme cachés, puis c'est sous le secret, parce que l'autre ne savait pas nécessairement qu'il était enregistré.
Ouais, puis il ose même garder dans le film, d'ailleurs, je veux juste rebondir ce que tu dis, il ose même garder dans le film, à un moment donné, il y a un des Allemands qui dit ah, mais là, tu diras pas que c'est moi, hein, tu sais, puis il dit littéralement comme ah, ben, utilise pas mon nom, puis dans le film, il met, tu sais, avec une caméra cachée, genre le moment où l'Allemand lui demande de pas utiliser son nom. Tu sais, ce que je veux dire, c'est la bavure va jusque-là, mais. On se dit, ben, tu sais, c'est une bavure, c'est comme, comment dire, c'est une maigre bavure en lumière, comme, de ce que l'autre a pu faire, mais je comprends que ça, qu'il y a quand même des questions qui sont soulevées par ça. C'est quand même très minoritaire dans le film, mais, tu sais, comme sur 9h30, c'est quelques entre eux, c'est peut-être 3 ou 4. C'est sûr, vraiment un nombre incalculable là, d'entrevues. Donc, tu sais, ça reste minoritaire, mais effectivement, c'est tellement gros. C'est tellement des grosses décisions, puis c'est là où le feeling d'impartialité, tu sais, tombe complètement, mais ça invalide pas du tout le film, puis l'œuvre, la valeur historique d'un tel document, là.
Puis selon toi, le film en 2016 a comme rien perdu de sa force, puis c'est autant visuellement que tu recommandes à tout le monde?
Ben oui, parce que, tu sais, c'est comme... Moi, je pense qu'on est saturé de l'imagerie populaire de l'Holocauste et de la Deuxième Guerre, tu sais. Combien de films de plus que tu peux voir Hitler ou que tu peux voir, tu sais, c'est comment dire, c'est ce côté-là, je crois, de l'histoire qui nous a été saturé, j'ai l'impression. Pourtant, quand tu visionnes un film comme Shoah, on se surprend à faire ah, ben il y a plein d'affaires qu'on sait pas, puis il y a plein d'affaires qu'on pense qu'on sait, mais que finalement on connaît juste le tip de l'iceberg, tu sais, les images comme un peu justement là, pop, tu sais, que tu sais, je sais pas, histoire 101, mais tu sais, vraiment en surface. Donc, même que s'il y a de quoi, ça te donne quasiment envie de revisiter des fois peut-être certains autres films, comme moi j'ai dit même tout haut, comme il y a une longue portion où il parle du ghetto de Varsovie et tout ça. Puis tu sais, effectivement, moi j'avais les images du film Le Pianiste qui me repassaient en tête, que j'ai vu quelques fois, mais là ça fait très longtemps que je l'ai vu. Puis vois-tu, ça m'a comme donné envie peut-être de revisiter Le Pianiste, par exemple. Ou tu sais, puis juste comme. Parce qu'il y a une entrevue sur un des Sonderkommando qui est à Auschwitz. Et puis là, évidemment, les images du fils de Saul te reviennent en tête un peu comme un cauchemar. Tu sais, quand il parle des fours crématoires. Excuse-moi, j'ai comme la gorge sèche. Quand il parle des fours crématoires, on dirait que t'as les images du fils de Saul qui te viennent en tête puis qui se bousculent, tu sais, les images d'horreur. Donc, effectivement, on dirait que ça, comment dire, ça contextualise. C'est tellement un bloc, c'est un film vital qui contextualise finalement toute l'imagerie pop, Holocauste, Deuxième Guerre qu'on a vu et revu et revu. Donc, non, visuellement essentiel, là, je veux dire, son statut de chef-d'œuvre est complètement, complètement mérité. Là.
Ben, écoute, Pascal, je pense que j'ai le goût de rebondir sur tout ce que tu dis. Parce que j'ai vu un documentaire cette semaine, un monument à son échelle, qui est donc de 2016, qui est de cette année. Une grosse pièce qui, je crois, selon moi, devrait faire l'objet du même type de visionnement, t'sais, réflexif, puis comme un travail de mémoire.
Je sais pas si tu jokes ou si c'est vrai, mais
Non, pas du
vas-y.
tout. Pas du tout. Un film, encore une fois, qui remet en contexte un événement qui est plus de notre génération qu'on a connu t'sais, de première main, si je peux dire, entre guillemets. C'est OG, Made in America, d'Ezra Edelman,
Ah oui.
qui revient. Donc c'est un film de 7 h 30 qui revient sur toute la saga d'O.J. Simpson,
Ah, cool. Tu
mais
l'as
qui...
vu, ça?
Ouais, je viens de le finir, et puis qui replace aussi dans tout le contexte de l'Amérique de la fin des années 80, début des années 90, qui replace le contexte de la vie d'O.J. Simpson en tant que figure héroïque de l'Amérique et de la culture afro-américaine, la culture noire, forcément. C'est un film, bon, pour la petite histoire, ça fait partie c'est un film de ESPN, ça fait partie de leur fameuse série 30 for 30, qui contient maintenant quelque chose comme plus de 80 films, parce qu'à la base, 30 for 30, c'était pour célébrer les 30 ans d'ESPN, et ils ont donc commandé une trentaine de documentaires sur soit des anecdotes ou des personnalités qui ont marqué le sport ou des matchs importants, des trucs comme ça. Vous en avez sûrement tous déjà vu, peut-être même sans le savoir. C'est une série qui est très populaire. C'est ça qui est devenu tellement populaire finalement qu'elle n'aura visiblement jamais de fin. C'est comme devenu un peu l'espèce l'étendard de ESPN, là, ce qu'ils font de mieux. Et d'ailleurs, je serais pas surpris que OG Made in America se retrouve nommé aux Oscars. C'est vraiment comme un.
Mais c'est pas ça, on a déjà parlé, mais c'est une télésérie quand même, là.
Ben, en tout cas, je sais pas comment qu'il. Tu sais, je veux dire, il peut toujours avoir des espèces de passe-droit,
C'est
là, tu
plus.
sais. On a vu
C'est pas,
comme.
ben non, c'est plus Golden Globe, c'est pas parce que c'est cinématographique que ça va aller. Un peu comme The Jinx, tu sais, c'est une grosse série à grosse production, mais ça reste que c'est une série, là.
Mais la
OG,
différence,
on est dans de la télé,
c'est.
c'est
Ouais.
que la télé est passée à un next level, là.
Ben, en fait, non, O.J. est pas du tout cinématographique, c'est vraiment très télévisuel, mais ça l'a sorti dans les cinémas. Il y a eu une sortie en salle, ça joue dans les festivals aussi, notamment à Sundance. Donc bon, de toute façon, peu importe, mon point, c'est que cette série-là vaut amplement le visionnement. Et ce qui est fascinant, c'est que, parce que moi, je sais pas si vous avez vécu ça, les gars, mais moi, je me rappelle là, avoir vu comme la course-poursuite de lui qui s'enfuit dans sa camionnette blanche, puis les hélicoptères qui le suivent, puis qui voulait pas se remettre aux policiers. Moi, je me rappelle l'avoir vu live, j'étais
C'est fou, moi je
jeune.
l'ai vécu à l'époque à travers Safari, qui ont tellement fait de jokes là-dessus, puis d'articles comiques sur OJ. Je pense qu'il y a eu des covers du magazine Safari avec OJ. C'était comme dans ma jeunesse, ça a été vraiment la façon que j'ai approché cette nouvelle-là, tu sais. C'est quand même drôle, la connaissance de ce fait-là vient de Safari, en tout cas.
C'est
Passons,
quand même bon.
continue pas là.
Ben non, mais pourtant, en plus, tu dis ça, mais tu te sens un peu comme que c'est un peu anecdotique, mais en même temps, O.J. Simpson, en 94, lorsque le meurtre de sa femme et de l'amant de sa femme survient, et qu'il est le principal suspect, lui, là, il sort d'une jeune carrière florissante à Hollywood. Tu sais, c'est un Hall of Fame NFL, puis il vient de faire le Naked Gun, je veux dire,
Ouais, c'est ça.
tu sais, il est partout, là, c'est une méga célébrité, là. C'est vraiment comme si, je sais pas moi, Kevin Hart, en ce moment, là, il serait comme, tu sais, accusé de double meurtre, là. Donc,
Oh,
c'était vraiment une grosse célébrité, même plus que Kevin Hart, là. Tu sais, Kevin Hart n'a pas été
ouais, c'est
comme un
ça.
champion de sport, là.
Wow, OJ était big, là,
C'est ça, puis c'était vraiment une icône de la culture noire, comme, mettons, peut l'être Michael Jackson, ou des gens comme ça qui ont vraiment transcendé leur univers puis leurs origines pour devenir. Puis c'est vraiment un point qui est appuyé dans le documentaire, c'est une des thèses du documentaire, c'est que O.J. a comme. O.J. Simpson a transcendé sa race. Il n'était ni noir ni blanc, il était O.J. T'sais. Puis ça a été un des premiers porte-parole, ça a été un des premiers athlètes qui est devenu comme porte-parole de compagnie. Puis il a comme vraiment beaucoup. Lui-même est devenu une marque de commerce. Puis ça, à l'époque, c'était très novateur d'avoir des aussi gros sponsorships comme ça de compagnie. Maintenant, tout le monde a ça. Mais on se replace, là, lui, sa carrière, ça a commencé dans les années 70. Là, il était déjà comme. Il est sélectionné au premier tour dès sa première année qu'il était éligible au repêchage. Puis c'est une méga vedette déjà au collège, avant la NFL, tout ça. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un vraiment qui est parti sur les chapeaux de roue. Et c'est ensuite tenu comme le procès du siècle. C'est carrément ça, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le procès du siècle. Puis, tu sais, ce qui est fou, c'est qu'aussi que c'est l'histoire a continué depuis ce temps-là. Bon, tous ceux, à peu près n'importe qui au monde est au courant, t'sais, mais bon, spoilers pour ceux qui ne le savent pas, mais il a été acquitté. Puis le procès, ça a joué beaucoup sur des questions, sur la question raciale. Puis faut, c'est ça que la série fait très bien, en fait, c'est de le remettre en contexte. Parce que là, on a 8 heures de matériel, 7h30 de matériel. Et le procès n'arrive pas avant comme deuxième moitié du troisième épisode d'une heure et demie. Parce que justement, il essaie de nous remettre dans la situation de comme c'était à Los Angeles, le LAPD à l'époque a vraiment mauvaise réputation. Il y a eu quelques cas précédemment de Noirs qui ont été acquittés pour rien ou de flics qui ont été filmés en train de tabasser des gens non armés. Et tout ça, en 2016, ça a beaucoup trop de résonance.
Ben ouais, c'est ça que j'allais dire. J'allais faire une mauvaise blague pour dire, ben, tu sais, finalement,
C'est ça. Ben,
c'est
c'est
comme
justement,
aujourd'hui.
oui. C'est justement pourquoi c'est d'autant plus essentiel. Puis comme, bon, la Shoah, je veux dire, c'est sûr que c'est un genre de truc à une autre échelle, mais je veux dire, ce genre de tragédie ne devrait pas arriver à nouveau.
Ah non, 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 mais t'as peu, hey, juste rebondir un mini peu sur ce que tu viens de dire, mais vraiment, surtout dans l'Amérique en tumulte, là, qu'on voit en ce moment, il y a trop de moments dans un film comme Shoah où j'ai fait comme, ok, non, tu sais, quand on dit l'histoire peut se répéter, là, si on n'est pas vigilant, ou même en lumière de tragédies ou d'événements comme plus grand que nature, moi, trop souvent, en regardant un film comme ça, on dépassait juste le cadre historique, tu sais, c'est pas comme genre, c'est passé, c'est dans une bulle
Non,
scellée,
c'est
puis on le
ça.
regarde de loin, tu sais, ça. Trop souvent, il y avait des affaires que t'es comme, ah, il y a une résonance aujourd'hui.
Ouais.
Tu sais, on fait un mur du ghetto de Varsovie, puis on fait payer les Juifs pour le mur, puis t'es comme, man, genre, tu sais, pour vrai. En tout cas, on peut pas ne pas faire, tu sais, référence à quelqu'un en ce moment-là. Tu sais ce que je veux dire? Fait que,
Ouais.
non, 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 c'est que, ben, comme tu dis, en fait, ces films-là, ces événements-là, quand sont bien mis en contexte,
Ouais.
on comprend l'humain derrière. Puis l'humain, ben, il change pas tant que ça, hein, tu sais, finalement.
C'est ça.
En tout
Puis tout le procès d'O.J. Simpson, c'est tellement devenu, c'est devenu comme un symbole. Tu sais, c'est de savoir la justice, elle est pour qui finalement, puis de quel bord êtes-vous. Puis le travail d'archives dans ce documentaire-là est incroyable. Ils ont vraiment des archives pour tout. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, ce qui est aussi fou avec ce cas-là, c'est que lui a été acquitté, mais finalement, plus tard, 2 ans plus tard, au civil, il a été reconnu coupable. Mais donc, il devait débourser de l'argent, mais sans faire de prison. Et puis ensuite, bon, ensuite, il s'en est sauvé de toutes sortes de façons en créant des compagnies fantômes et tout ça. Mais c'est en 2008, finalement, qu'il était acquitté pour genre une histoire de vol, puis qu'il est rentré dans un hôtel avec des amis, puis des guns. Puis, fait que là, finalement, il purge comme 33 ans de prison pour avoir comme menacé quelqu'un, puis volé comme des photos de lui signées. Ce qui est comme beaucoup trop là, pour ce crime-là, mais clairement, c'est une espèce de revanche face à un procès ben,
Ouais,
revanche,
c'est une rétro, c'est rétroactif, là.
c'est ça tout à fait. Puis là, il purge toujours en ce moment sa peine de prison. Mais c'est ça, puis vraiment, le film m'a troublé, m'a bouleversé à des moments, là. Tu sais, comme, tu vois les images, là, à la sortie, là, le procès a duré à peu près 1 an. Puis là, comme là, c'était le premier jour de délibération du jury. Puis d'habitude, on dit que pour un procès qui dure une semaine, tu sais, pour chaque semaine de procès, t'as d'habitude une journée de délibération. Donc là, c'est un procès qui avait duré 1 an. Fait que là, tout le monde s'attendait à ce que ça soit comme quelques semaines de délibération là, avant qu'on ait enfin un verdict. Et finalement, ça a duré comme une matinée. Puis le jury avait son verdict pour toutes sortes de raisons qu'il explique dans le documentaire. Mais ce qui était quand même assez fou, c'est que là, tu sais, la police était préparée. Tu sais, OK. Quoi que ce soit qui va sortir, il va peut-être avoir une émeute. Donc là, toute la police de Los Angeles est autour de comme le tribunal, la police à cheval, tout ça. Puis là, tout le monde a des petites radios portatives. Puis là, il entend c'est des foules immenses, de milliers de personnes qui entendent le verdict non coupable. Puis là, c'est comme irruption de joie, puis de bonheur, puis de catharsis. Puis t'es comme, ces foules-là qui acclament quelqu'un qui visiblement semble le meurtrier soit acquitté, mais ça allait, tu sais, beaucoup, ça allait au-delà de ça, c'est plus une question de comme est-ce qu'il l'a tué ou non. Donc vraiment là, c'est ça, c'est un travail phénoménal. Puis pour moi, j'ai pas vu beaucoup de documentaires cette année, mais s'il y en a un à voir, c'est celui-là. Et d'ailleurs, il est disponible au Canada, en fait, c'est disponible sur Crave TV. Vous avez le droit à un mois gratuit d'essai. C'est ça que j'ai fait, en fait. Je me suis branché sur mon Apple TV. Pour Crave, donc c'est un service de Bell. Sinon, ensuite, je pense que c'est 8 $ par mois. Mais si jamais ça vous intéresse, ben, vous pouvez utiliser un mois d'essai gratuit sur Crave TV et voir cette série incroyable. Et d'ailleurs, sur Crave TV, il y a également The Jinx. Donc, si vous n'avez pas vu les deux,
Oh my God, hein.
prenez-vous un mois gratuit de Crave puis écoutez ces
Mais
deux-là.
c'est ça, c'est la grosse mode, tu sais, Making a Murderer sur Netflix, il est incroyable. C'est toutes des séries qui font, vu que c'est du documentaire, mais c'est du gros documentaire. Tu sais, ça reste que c'est du sensationnalisme, mais fait d'une façon un petit peu plus délicate qu'un documentaire Canal D, là. Mais c'est comme la grosse mode. Puis il y en a un nouveau qui vient de sortir sur Netflix que j'ai regardé. Fait que pour ceux qui ont Netflix, je le recommande vraiment, mais c'est Amanda Knox, qui est l'histoire de cette fille en 2007. C'est une Américaine qui est allée en Italie pour ben en fait pour le fun, pour changer de vie, pour découvrir le monde. Puis en fait sa colocataire a été assassinée. Puis elle est tombée sur cette scène-là, mais en gros c'est elle qui s'est faite accuser du meurtre, elle puis son chum. Puis la police italienne qui voulait pas perdre la face devant le reste du monde a construit un dossier, en fait, ils ont créé une meurtrière avec son profil à elle. Donc, elle a passé 4 ans dans les prisons italiennes. Une fille là, qui avait 19 ans, je pense que c'est 19 ou 20 ans, qui a passé 4 ans de son jeune âge adulte dans les prisons en Italie pour un meurtre qu'elle a probablement pas commis. Je veux dire, il laisse toujours ça ouvert là, dans ce genre de documentaire comme ça, mais en fait, c'est la première fois qu'Amanda Knox s'exprime aussi ouvertement sur le sujet. Puis ça ouvre avec elle qui dit, tu sais, il y a deux options. Soit j'ai en dessous de mon visage de brebis, j'ai assassiné sauvagement ma coloc, ou soit, tu sais, puis je suis une meurtrière sanguinaire, ou soit je suis quelqu'un qui peut être vous, dans le fond, qui s'est fait prendre dans un tourbillon comme ça. Parce qu'on voit là à quel point c'est ça, tout à travers le documentaire, on voit à quel point la justice italienne, mais en fait la police italienne, ça, pour pas perdre la face, a juste créer un profil, mais avec tous les petits détails qu'ils pouvaient trouver sur sa vie, tout ce qu'ils trouvaient sur les réseaux sociaux, ils ont créé un monstre, une fille psychotique, psychopathe, puis mais c'est vraiment bien fait le documentaire, c'est dans cette lignée-là, c'est un genre de Jinx, là, mais ça dure juste 1 heure et demie, là, et celui-là est un peu plus court, ça se regarde un peu mieux, mais ça laisse le même feeling que toute ce genre de série-là où à la fin tu te sens comme pas bien, mais en même temps, t'es vraiment thrilled parce que c'est une histoire assez captivante, mais ça laisse tout le temps une espèce de feeling amer quand tu finis ça, mais t'as toujours le goût d'en regarder un autre, là, c'est un peu étrange, là.
Parce que
Dans South Park, ils appellent ça du informative murder porn.
ouais, mais c'est parce que il y a quelque chose que l'image archive que la fiction ne pourra jamais à côté, tu sais, comme de voir le vrai O.J. Simpson en 94. C'est le fameux moment où, comme la défense lui dit, peux-tu essayer le fameux gant
Ah,
couvert de
oui.
sang, puis qu'il le met, puis ça fit pas, puis il regarde le jury tout fier de lui, là. Tu sais, c'est comme, j'en ai encore des frissons 20 ans plus tard, tu sais. Puis je me rappelle de ce moment-là quand j'étais tout jeune, puis là, de le revisiter avec, bon, tu sais, j'étais vraiment très jeune à l'époque, là. Puis de le revisiter avec ça, puis tu utilises le terme sensationnaliste, Rémi, mais t'sais, un documentaire comme ça, c'est vraiment comme 20 ans plus tard, puis t'sais, un peu réfléchir sur l'Amérique, puis quel progrès on a fait, si on en a fait. Donc, je trouve que c'est quand même, t'sais, c'est un travail aussi de longue haleine, puis de recherche, c'est pas juste, t'sais, on veut mettre des...
Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est plus soigné, là,
Ouais.
c'est pas du Canal D, c'est du gros trash fast-food, là. C'est des trucs vraiment, tu sais, Making a Murderer, c'est un film c'est une série qui s'est faite sur 10 ans, là. T'sais, je sais pas si tu l'as vu, celle-là, Paul, mais
Non,
comme
pas encore.
c'était la grosse série Netflix, là, quand c'est sorti. Puis ils vont probablement faire une suite parce que cette histoire-là est pas finie non plus. Mais tu sais, c'est un travail de 10 ans, fait que c'est hyper admirable. Mais en même temps, c'est construit pour aller chercher un public très large, un public qui peut facilement embarquer dans ces histoires-là. Mais effectivement, je soustrais pas le travail qui est fait dans un truc comme ça, là. C'est super impressionnant, là.
Ben, d'ailleurs, hein, t'sais, il y a des chiffres, là, juste, c'est vraiment impressionnant, mais la fameuse journée de l'arrestation d'O.J. Simpson, là, puis de la poursuite en voiture, là, c'est 95 millions d'Américains qui ont comme écouté ça à un moment ou à un autre de la journée, là. T'sais, 95 millions sur environ 300 millions d'habitants à l'époque, là. T'sais, un tiers de l'Amérique était rivé sur son téléviseur, là. T'sais, c'est beaucoup de monde, là. Comme la plus. Genre. Titanic a peut-être même pas fait 95 millions de billets vendus, là. Je veux dire, c'est énorme comme chiffre, là. Donc, c'est ça, c'est des événements comme ça qui ont. De Jinx, un peu moins, là. Mais c'est ça, comme O.J. Simpson, c'est le genre de cas qui a marqué toute une génération, là. Bref, vous irez voir ça. Sinon, il y a un film que je veux absolument qu'on parle, même si c'est rapidement, parce que pour moi, c'est un des gros films à voir en cette fin d'année. Et c'est tellement plaisant de dire que le meilleur film américain de l'année, c'est réalisé par un Québécois. Et je parle
Oui, c'est ça. Mais
je parle
là,
d'Arrival de Denis Villeneuve. Toi, Pascal,
gros suspense.
Pascal, tu l'as pas vu encore?
Non, je l'ai pas vu,
Oh, tu l'as
malheureusement.
pas vu? Ok.
Non, c'est ça. Mais parlez-en,
Non.
les gars. On va finir
T'as
avec
pas
ça.
vu ça? Hey, moi,
Non,
j'ai
non,
vu
je l'ai
Old
vu.
Boy, puis t'as même pas vu Arrival.
Ouais, je sais.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Ouais.
Mais je vais le voir avant la fin de l'année, c'est
Il y
sûr.
en a un qui avait pas 15 ans qui est sorti, par contre, là, mais.
Puis Paul, toi, ton introduction dans la filmographie américaine de Denis Villeneuve?
Ben oui, c'est ça, parce que j'ai pas encore vu Prisoners, Enemy, Sicario. Mais là, j'ai vu Arrival. Et foutu pour un film de science-fiction, on va le dire d'entrée de jeu. C'est intelligent, c'est hypnotisant, c'est beau, c'est envoûtant. Pour ceux qui aiment la vraie science-fiction, là, comme pas la science-fiction. Parce que des fois, on parle de science-fiction, dès qu'il y a des lasers ou dès qu'il y a de l'action, c'est de la science-fiction, tu sais.
Ouais, science-fiction égale Star Wars, là, tu
C'est
sais.
ça. Là, c'est comme la belle science-fiction, là. Tu sais, Rencontre du troisième type, Contact, 2001, tu sais, l'espace. C'est un peu dans ce modèle-là, Interstellar aussi. On pense à ça.
Ben, tu double soulignes le mot science dans la science-fiction, c'est ça
Ouais.
l'affaire, là.
Ouais. Puis aussi, c'est que c'est traité. Tu sais, le premier demi-heure, donc, c'est. En fait, c'est comme un Independence Day, mais comme, tu sais, vraiment intellectuel, là. Parce que la première demi-heure. Parce que, ben, c'est ça, la première demi-heure, c'est. Il y a comme des vaisseaux qui arrivent sur la Terre. Puis comme comment le monde réagirait. Puis ça prend du temps. Tu sais, Denis Villeneuve, je pense, a retenu les bonnes leçons justement de Steven Spielberg. T'sais. Puis ça prend du temps avant qu'on voit le vaisseau. Ça prend du temps avant qu'on voit ce qui se passe pendant vraiment longtemps. Là, tu sais, c'est comme l'intro un peu de War of the Worlds où, tu sais, c'est comme dans une classe d'école, t'as un professeur, puis là, il manque plein d'élèves, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as un élève qui, tu sais, tout le monde reçoit des textos, puis là, l'élève dit au professeur, pouvez-vous mettre les nouvelles, s'il vous plaît? Puis là, c'est CNN, puis là, c'est, tu vois, ou je sais pas quel canal d'information. Puis là, tu vois comme, tu sais, tu vois rien, finalement, tu vois le regard du professeur sur ça. Puis, tu comprends qu'il se passe de quelque chose de massif. Elle sort de l'école, t'as les jets d'armée, le bruit assourdissant, tout le monde qui s'en va, tout le monde qui est comme rivé sur le téléphone, puis qui savent pas trop ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que ça te met, dès le départ, ça te met dans le bateau, notamment par un travail de direction photo comme hallucinant, là, qui des longs, tu sais, travelling vers l'avant, tu sais, comme, tu pénètres dans l'image, puis en même temps, en tant que spectateur, tu es comme ça, tu sais, t'as juste le goût de comme en savoir plus, en savoir plus. Un peu comme l'intro de Gravity, là, tu sais, l'espèce de 15 minutes sans arrêt, tu sais, pas de bruit, t'es dans l'espace, là. Mais je trouvais qu'Arrival faisait un peu ça, mais sur Terre, tu sais, c'est comme. T'es vraiment plongé dans le film, mais avec une maîtrise puis une patience qui est comme assez impressionnante.
Bien d'accord. Je sais pas si t'étais sur une lancée, je voulais pas.
Non, mais j'essaie de comme te passer le relais.
Ouais, ben moi en fait moi ça m'a rappelé même tu sais, tu parlais de Spielberg, mais l'école Close Encounters, Contact aussi. C'est comme c'est tu sais, c'est de la science-fiction. La science-fiction pas d'antagoniste, là, tu sais, y a pas vraiment d'antagoniste là dans le film. Ça, je trouve ça vraiment merveilleux dans un film quand tu peux construire ton film autour d'autres choses qu'une relation gentil-méchant, là. C'est un film sur la communication, en gros, puis ça exploite bien sa thématique, là. C'est le personnage principal, c'est une prof de langue, une académicienne de langue, puis c'est pour essayer de déchiffrer un langage qui vient d'ailleurs, qu'elle est recrutée par l'armée, puis c'est là que le film part, puis après ça, ben, je sais pas quoi dire, je veux comme tellement pas brûler de trucs du film, parce que c'était comme merveilleux à découvrir, j'en savais pas trop, puis en plus, je dirais que la bande-annonce, c'est rare, là, mais la bande-annonce vend pas tant l'histoire, elle vend le visuel, puis elle vend un peu,
Le mystère, ouais.
ouais, la vibe du film, là, mais elle vend pas du tout l'histoire, parce que c'est pas un gros film spectacle, c'est spectaculaire, oui, mais c'est pas un film... spectacle, comme Paul dit, c'est intellectuel, c'est un film d'auteur hollywoodien, là. C'est un peu ce que, ça peut se comparer un peu à du, tu sais, je vais dire ça avec beaucoup de réserve, là, mais un peu du Christopher Nolan, mais un peu plus intelligent, puis un peu moins tout public, là, tu sais. C'est un peu la vibe d'un cinéma d'auteur, mais avec le budget qui est le budget hollywoodien, là. Puis, tu sais, c'est une note d'excellence avant un Blade Runner 2, là, on sait qu'il s'en va vers ça, puis c'est comme...
Ouais,
c'est, il ne l'échappera pas,
puis,
là.
Ouais, puis à la base, un peu, tu sais, les mauvaises langues disaient, tu sais, que Rival, c'est une espèce de... un coup d'essai, tu sais, un échauffement un peu avant... pour s'attaquer à Blade Runner 2, mais mon Dieu, si c'est ça le coup d'essai, je suis comme soudainement excité de voir Blade Runner 2, puis je me demande si ça va réussir à le surpasser. Là. Mais par contre, le film n'est pas exempt de défauts non plus. Là où je trouve où le traitement est très bien, puis comme tu le dis, Rémi, il n'y a pas vraiment de construction gentil-méchant, puis notamment une performance d'Amy Adams comme toujours excellente. Là, ça en vient qu'on n'est même plus tellement impressionné par ce qu'elle peut faire. Jeremy Renner, qui est comme un peu le second rôle.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un peu un casting étrange parce que là, il joue l'espèce de scientifique mathématicien un peu nerd. Je sais pas jusqu'à quel point.
Ben, Jeremy Renner, on a toujours nos réserves au podcast. Ouais. Exemple, chaque fois qu'on parle de lui, ouais, c'est comme le blend guy, là. Tu sais, le gars qui.
Ben, il est pas si pire que ça.
Qui est comme, qui est sans saveur, là.
Ben, j'avais pensé...
comme, Jeremy Renner, ouais, c'est un peu comme un verre d'eau, là.
J'allais genre... poser, j'allais vous poser la question parce que aussi, on dirait que je le filais comme pas. Puis je suis content un peu que tu. Mais même plus que ça, les gars, on dirait que là, vous êtes visiblement méga enthousiaste par rapport au film. On dirait que je vous crois pas. On dirait que j'ai comme, comment dire. On dirait que j'ai. Parce que j'ai toujours mes réserves. Je trouve que Villeneuve, c'est toujours une belle coquille, mais dès qu'on s'y attarde. Tu sais, je trouve qu'on plafonne assez vite. Moi, c'est souvent ça, mon sentiment avec le cinéma de Denis Villeneuve.
Ben, Scario, je serais d'accord avec toi, mais tu vois, Prisoner, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai adoré le fois mille.
Bon, ben, ce que je veux dire, c'est que vous me crinquez, je vais aller le voir, c'est sûr, mais on dirait que, on dirait que je suis comme pas capable
ben,
de juste
ça.
Aveuglément garde, vous faire confiance.
Garde tes réserves, puis tant mieux, parce que tu vas peut-être avoir une meilleure surprise, parce que je suis toujours... Moi, tout le... C'est le genre de film que je vais toujours avoir un peu... tu sais, j'espère que ça va être bon, mais en même temps, ça pourrait être très mauvais, là, tu sais.
Mm-hmm.
Puis non, c'est vraiment intéressant. Puis narrativement, ça ressemble à rien. C'est tu sais, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un ovni, ce film-là. Là. Ça sort vraiment de ce qu'on voit en général au cinéma comme ça, là.
Ça crée comme un nouveau langage du cinéma.
Mais c'est parce que ce que tu disais, c'est effectivement la bande-annonce vendait pas nécessairement l'histoire, ce qui est bien, j'ai l'impression, pour un film comme ça, mais vendait un mystère. Ouais. Puis moi, c'est ça, au-delà de l'aspect science-fiction, c'est pour moi, c'est le... Il y a comme une dimension mystère, en tout cas, que le film a l'air d'avoir un aura un peu même mystique, j'oserais dire. Est-ce qu'il y a un peu de, justement, un peu quasiment de poésie ou un peu, tu sais, je comprends un peu la question.
Ben, tout à fait. Puis le film fait tellement de choses bien. Il y a quelques faiblesses aussi. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des plans. Il y a un plan à un moment donné, là, juste un espèce de plan d'hélicoptère où, pour la première fois, t'as vraiment une bonne vue sur genre l'une des capsules, l'un des vaisseaux. Puis ce plan-là, là, t'as comme les espèces de nuages qui descendent sur la vallée, puis, je veux dire, t'as l'impression de rentrer dans une couverture de, tu sais, un vieux livre de poche de science-fiction des années 70, quelque chose de russe, tu sais, puis...
Ouais, très Asimov, là, ouais,
c'est ça, t'as quelque chose de comme de l'abstrait, puis, tu sais, ce film-là, c'est l'illustration parfaite que des fois, less is more, puis c'est quelque chose qu'on a oublié au cinéma, surtout dans le cinéma de science-fiction, puis dans le cinéma de grand spectacle, tu sais, on est tellement à la surenchère, puis bon... Tu parlais de Doctor Strange, Rémi, puis je suis sûr que c'est très bon, mais mine de rien, on a beaucoup de films sur ce mode-là, qui est un mode...
Ouais, c'est à l'antipode d'Arrival, là, c'est complètement autre chose. Tu sais, Doctor Strange sera pas dans mon top cette année, mais Arrival va être très très haut, là, tu sais, on s'entend, là, c'est comme...
C'est parce que c'est ça, c'est juste comme laisser fleurir aussi l'imagination du spectateur, tu sais, lui donner seulement quelques pistes pour que lui-même se mette dans la position des spectateurs. Il y a vraiment beaucoup de ça, il y a beaucoup de projections, puis d'identification. Ce film, c'est un gros « et si ». Et si tu rentrais en contact avec telle chose, et si tu pouvais leur parler. Comme... Puis le film vraiment est patient, là, chaque étape. Puis, en même temps, il utilise des ellipses de manière très, parfois frustrante, mais c'est au bénéfice du film. Comme... Il y a vraiment des moments où on rentre dans un passage, puis whoop, on coupe à plus tard, puis il faut recommencer, puis tu sais, il y a quelque chose de très laborieux, puis très pas à pas. Mais ça, tu sais, sur le coup, ça peut être frustrant, mais t'en sors vraiment comme galvanisé, là, dans un sens. Une autre chose que le film fait très très bien, c'est que les scientifiques, les personnages principaux, Ils sont intelligents. Tu as vraiment l'impression que c'est des scientifiques, puis qu'ils prennent des décisions intelligentes, puis ils ont peut-être un pas d'avance sur toi. T'sais, alors que, mettons, un Prométhéeus, t'sais, les scientifiques sont comme. Ça doit être genre les personnes les plus intelligentes qu'on envoie dans l'espace, puis sont super stupides. T'sais.
Hey, on va enlever nos casques.
C'est ça. T'sais, alors que c'est ça. Fait que Prométhéeus, bon, c'est pour ça aussi que Prométhéeus, c'est plus près du film d'horreur que du film de science-fiction, là, puis c'est très voulu, là, c'est designé comme ça. Mais Arrival fait du bien là-dedans. Par contre, mon gros bémol, c'est que c'est encore un peu. Ça semble être un problème récurrent chez Denis Villeneuve, là, n'ayant pas vu tous ses films, mais j'ai entendu un peu cette critique-là. C'est que, tu sais, la femme est un peu l'ange pur, puis l'homme, entre guillemets, est un peu le bêta, tout ça. Puis, tu sais, il y a quand même une certaine dichotomie qui est soulignée à gros traits
Ouais, mais
entre
là, on
l'armée et
s'entend
la
que c'est
science.
ça, c'est la femme plus l'armée, tu sais, c'est comme, à un moment donné, sont dressés d'avance, ces portraits-là, puis,
Ouais, mais
je veux dire, c'est...
le trait est quand même gros, puis il y a des fois que j'aurais aimé un peu moins de. Tu sais, il y a quand même une couple de clichés, le style le colonel qui dit pourquoi on doit faire ça? Explique-moi-le. Puis là, elle prend un schéma, un tableau, puis là, tu sais, elle explique, là, tu sais.
Ouais, puis c'est clairement pour le public, mais tu sais, ouais.
Fait que, tu sais,
C'est parce que c'est tellement des petits problèmes qu'on les pinpointe parce que le film est vraiment bon, tu sais.
Oui.
Parce que si le film était pas aussi bon, je pense qu'on s'attendrait pas
Mais c'est
à
ça,
ces
c'est que le
petits
film est
trucs-là, tu
tellement
sais.
bon que j'aurais espéré qu'il y ait au-delà de. T'sais, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de femmes autres qu'Amy Adams. Puis t'sais, j'aurais aimé que. C'est ça, c'est que Amy Adams, c'est comme ça, c'est la femme versus l'homme. Puis t'sais, bon, ouais, la femme, c'est le futur de l'homme. Puis t'sais, la femme, clairement, est capable de compassion. Les hommes passent avec des guns. T'sais, la métaphore est quand même grosse. Puis ça gâche un petit peu mon plaisir. Mais t'sais, c'est vraiment comme le bon l'emporte vraiment beaucoup sur comme les maigres défauts que je peux lui soulever. C'est une vraie expérience de cinéma, le travail de musique de Johan Johansson,
Ah
c'est beaucoup de
oui.
l'ambiance, c'est vraiment formidable. Et évidemment, bon, on essaie de parler sans trop en parler du film, mais tu sais, Rémi le jeudi, c'est un film un peu sur la langue, sur les questions de communication. Donc, il y a toujours, tu sais, c'est un rêve un peu pour un designer sonore aussi de ce genre de concept-là. Tu sais, c'est un peu comme ceux qui. Je sais pas moi, le concepteur de son sur. Ça doit être Ben Burtt qui faisait Jurassic Park. Tu sais, c'est comme quel son on donne aux dinosaures. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est propre au cinéma, tu sais, de pouvoir mettre en son des images, tu sais, comme de l'imaginaire, là. Donc, il y a vraiment un travail sur le son qui est comme. Qui est délectable dans ce film-là. Tu sais, je veux dire, tu sors de là, puis. C'est comme, tu sais, t'as vécu une expérience qui est unique au cinéma, là. Donc, Rémi,
Alors.
oui, à voir, t'avais-tu quelque chose à rajouter, d'autres choses que
Non,
tu
non,
aimerais?
je pense que tu avais une belle conclusion, je voulais pas la gâcher. Je dirais juste aller voir ça, c'est vraiment. C'est parce que même si t'aimes pas ce film-là, si t'aimes pas ce vibe-là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. C'est comme juste ça ressemble à rien, donc je pense qu'on peut au moins découvrir du cinéma différent, puis fuck, c'est Made in Québec, là. Moi, je suis super fier de
Ouais.
ça, de voir ça,
Ah
là.
oui,
Faut
générique,
que
là,
j'arrive de faim,
que
puis
des
c'est du
Québécois,
bon
là.
québécois. C'est hot, là. C'est très, très... Une belle fierté, en fait, pour le Québec,
Parce
là.
que, mis à part le casting, ça a été tourné notamment proche de l'UDM pour plusieurs plans. Tous les effets spéciaux, c'est toutes des compagnies québécoises ou presque, là. Donc, non, c'est vraiment cool. Puis, j'ai hâte de voir aussi, bon, à quel point ça va être éligible pour les prix comme les écrans canadiens, puis les iris québécois. Mais, tu sais, j'espère qu'on va pouvoir comme inclure ce film-là. Parce qu'il le mérite amplement. C'est tellement rare qu'on fait du cinéma de ce type-là au Québec. Puis, tu sais, à cette échelle-là, encore moins. Puis avec cette qualité-là, encore moins. Donc, tu sais, c'est comme une espèce de miracle, ce film-là, pour le Québec, je trouve.
Bon.
Donc, Pascal, tu vas voir ça, ainsi que tous les spectateurs qui n'ont pas encore découvert cette œuvre. Et ça fait le tour de notre point de vue cette semaine. On va se quitter sur la bande-annonce du nouveau film de Tom Ford, Nocturnal Animals.
Oh
Bah,
yeah.
parce qu'on n'avait pas encore assez parlé d'Amy Adams cette semaine. Un petit doublé pour Amy Adams. Donc, c'est notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante, over and out.
Do you ever feel like your life has turned into something you never intended? I'm worried about you. Were you sleeping? You scared me the last time we talked. You know me. I never sleep. My ex-husband used to call me a nocturnal animal.
I didn't know you had an ex-husband.
I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me.
Did you love him?
I did something horrible to him.
What are we gonna do?
It's a question of how serious you are about seeing justice done.
Don't do this. You'll regret it. I really wanted to be this person that you thought I was.
You're crazy. You're making a big mistake.
You'll never find out.
When you love someone, you have to be careful with it. You might never get it again.
It's fun to kill people. We should try it sometime.
Nobody gets away with what you did. Nobody.